Le débat du jour. Romain Osoui.
Bonsoir à tous. À 6 mois du premier tour de la présidentielle en France, ils font plus parler d'eux que les propositions des candidats. Nous évoquons ce soir les sondages dans le débat du jour. Dernière en date, un sondage Harris Interactive publié ce mercredi et qui annonce, ce n'est pas la première fois, un second tour entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, alors que ce dernier ne s'est pas déclaré candidat. De quoi interroger ? Que signifient ces tendances ? Alors que l'histoire montre que régulièrement, pour reprendre l'expression, les sondages se sont trompés, eh bien, ils semblent toujours plus scruter ces sondages. Comment expliquer ce phénomène ? Et que disent-ils de la vie politique actuelle ? Voilà nos questions. Soyez les bienvenus.
RFI.
Et pour répondre à ces questions, nos trois invités ce soir, d'abord à mes côtés en studio, Emmanuel Rivière, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur international pour les études politiques de l'Institut de sondage Kantar Public. Face à vous, Stéphane Hunk, bonsoir.
Bonsoir.
Secrétaire général de la Commission des sondages. Et troisième invité, en ligne avec nous ce soir, Benjamin Morel, bonsoir.
Bonsoir.
Docteur en sciences politiques de l'École normale supérieure Paris-Saclay et maître de conférences en droit public à l'université Paris 2, Panthéon, Assas. Merci à vous trois d'être ce soir dans le débat du jour. D'abord, je me tourne vers vous, Stéphane Hunk, donc secrétaire général de la Commission des sondages. Ça marche comment les sondages ? Combien de personnes sont interrogées ? Qui ? Sur quel support ?
Alors, un sondage politique, un sondage électoral, c'est une enquête statistique. Donc, on essaie, les instituts de sondage essayent de reconstituer au sein d'un échantillon une partie de la population qui est significative par rapport à l'élection qui est en cause. Et la commission des sondages, son travail, ça va être de vérifier tout au long du processus que les instituts, qui ont chacun leur méthode, respectent un certain nombre de préconisations pour faire en sorte que le résultat affiché, l'estimation qu'ils font, est conforme à des règles de l'art, qu'il n'y a pas de trucage, pour le dire très simplement.
Alors, chaque institut, vous dites, a ses règles ?
Alors, il y a des règles qui sont fixées, c'est qu'on fait une enquête statistique. Donc, nous, ce qu'on va regarder d'abord, c'est comment est constitué l'échantillon. Est-ce que on va avoir les différentes catégories de la population qui sont représentées de façon satisfaisante par rapport à ce qu'ils représentent dans le corps électoral. On va vérifier donc que tout ça est bien représentatif. On va regarder les questions qui sont posées. Est-ce que ces questions ne sont pas biaisées ? Est-ce qu'on ne va pas avoir des questions qui vont inciter des gens à répondre plutôt dans un sens que dans l'autre ? On veut que les questions soient suffisamment neutres pour que les personnes sondées répondent de façon non biaisée. Et puis, on va regarder ce qui est l'élément de méthode particulier de chacun des sondages et qui fait souvent le plus débat, ce qu'on appelle les redressements. Les instituts de sondage ont des réponses, ils ont des résultats bruts. Et ils estiment que ces résultats bruts ne donnent pas une bonne image, une image exacte de l'état de l'opinion à un instant donné. Donc, ils vont pratiquer des redressements en fonction des souvenirs de vote, en fonction de la certitude d'aller voter, etc. Et donc, chacun a sa méthode par rapport à ces questions-là. Nous vérifions que les choix de redressement sont cohérents. Et on va vérifier surtout, ce qui est très important pour nous, la stabilité des méthodes qui sont retenues. C'est des points sur lesquels on reviendra dans un instant, mais un sondage donné, comme celui que vous avez cité, en tant que tel, ne donne pas forcément une image fidèle de la réalité de la situation à un instant donné. En revanche, quand il y a plusieurs sondages qui sont élaborés par le même institut, on veut qu'ils utilisent la même méthode pour qu'on puisse les comparer dans le temps.
Alors, on va tenter de donner des exemples. Emmanuel Rivière, vous qui êtes directeur international pour les études politiques de l'Institut de sondage Kantar Public. Cette différence entre brut et redressé, elle se traduit comment ?
Elle revient en fait à s'assurer que nos échantillons reproduisent bien la France électorale et on s'en assure en demandant aux gens ce qu'ils ont voté lors de l'élection précédente. Et on a besoin d'une élection de référence importante pour cette campagne des présidentielles 2022. L'élection de référence la plus importante, c'est la présidentielle 2017.
Mais est-ce qu'on peut donner des exemples pour bien comprendre ce que ça signifie ?
Par exemple, lorsqu'on demande aux gens pour qui avez-vous voté à l'élection présidentielle en 2017 et qu'on se rend compte qu'il y a parmi ceux qui s'expriment, qui restituent un vote, on a 28% pour Emmanuel Macron et 19% pour Marine Le Pen, ça signifie qu'on a sans doute peut-être dans l'échantillon, un peu trop d'électeurs d'Emmanuel Macron et peut-être pas assez d'électeurs de Marine Le Pen. Et dans ce cas-là, on peut faire le choix, effectivement, de corriger légèrement l'échantillon.
Sur quel critère ?
Sur ce critère-là, précisément. C'est-à-dire qu'en gros, mettons qu'il y ait 1000 personnes, ce sera plus simple, qui aient répondu à la question qu'avez-vous voté à l'élection présidentielle ? On n'en aurait que 190 qui auraient dit Marine Le Pen, soit 19%. Eh bien, ces 190, au lieu de peser un millième de l'échantillon, on va leur affecter un poids légèrement supérieur, de manière à ce qu'à la fin, ils représentent 210 personnes.
Mais ce que je veux dire, c'est que cette variable, elle est quantitative ?
Elle est quantitative, c'est-à-dire que chaque individu se trouve, pardon de compliquer un peu le propos, mais se trouve affecté d'un poids légèrement différent de 1, de manière à ce qu'avec ce poids-là, notre échantillon soit la stricte reproduction de l'élection précédente. Et là, on peut se dire, bon, ben, notre échantillon, évidemment, nonobstant le fait que des gens n'étaient pas inscrits sur les listes électorales et qui sont maintenant dans un échantillon, évidemment, ils sont traités à part. Mais voilà, on dit, tiens, on a reproduit la France électorale. Mais évidemment, ça pose un certain nombre de questions, qui est le fait notamment que les gens se souviennent bien de ce qu'ils ont voté et que ce ne soit pas un biais d'échantillon, que ce soit bien un biais d'échantillon, mais pas un biais de mémoire.
Et cet échantillon, justement, quel est-il ? Vous pouvez peut-être citer un de vos derniers sondages pour bien comprendre. Il y a combien de personnes ? Comment ça se passe ? Ça se passe sur Internet maintenant ?
Ça se passe sur Internet parce que ça a montré que c'était la meilleure méthode pour reconstituer notamment et donc anticiper le vote pour le Rassemblement national principalement. Ça se passe auprès de gens qui, à un moment dans leur vie, ont accepté de faire partie de ce qu'on appelle un access panel, c'est-à-dire une sorte de vivier de personnes qui disent « oui, ok, je suis d'accord pour répondre à vos sondages ». Puis un jour, ils reçoivent une sollicitation, il se trouve que c'est un sondage électoral. Qu'on a tendance à faire de plus en plus, d'ailleurs, auprès d'un échantillon plutôt autour de 1500 personnes, pour s'assurer qu'une fois qu'on a défalqué les quelques personnes qui disent ne pas être inscrites sur les listes électorales, les personnes qui disent « je ne suis pas sûr d'aller voter à l'élection présidentielle », on ait bien des bases suffisantes pour pouvoir dire qu'on a établi nos analyses sur un échantillon robuste. D'autant plus que ces analyses, on veut pouvoir les faire ensuite en fonction des votes antérieurs, en fonction des catégories. Donc c'est important d'avoir des bases suffisantes pour avoir de la robustesse statistique.
Benjamin Morel, le fait que les sondages se déroulent depuis plusieurs années, évidemment maintenant, sur Internet, est-ce que ce n'est pas un premier facteur d'influence des sondages ?
Alors là, je ne suis pas sondeur, donc pour le coup, j'aurais peut-être du mal à
En tant qu'expert en sciences politiques, je voulais dire, évidemment.
Oui, alors encore une fois, je ne suis pas spécialiste des sondages là-dessus et je dirais de la cuisine interne des sondeurs. Je pense que pour le coup, Emmanuel Rivière saurait mieux répondre à cette question-là. En réalité, quand on regarde un petit peu les dernières enquêtes, vous disiez tout à l'heure, les sondages se sont parfois trompés. En réalité, ce qui fait la grande difficulté aujourd'hui d'apprécier les résultats, c'est pas tant que vous avez un biais via le fait de se prononcer pour certains sur Internet, c'est qu'en réalité, les sondeurs ont aujourd'hui des difficultés à apprécier l'abstention. Et que par définition, quand vous touchez un panel qui va devoir se prononcer, eh bien, vous touchez généralement un électorat plus branché, plus politisé, et qui va être amené à émettre une opinion. Donc, à partir de là, les grandes difficultés de ces dernières années ont trait plutôt à l'abstention. Quand vous avez une abstention relativement faible, les panels représentatifs sur Internet ne sont guère plus moins représentatifs, avec par ailleurs des biais qui sont des biais beaucoup plus faciles à corriger que des panels téléphoniques, par exemple, pour certains votes plus difficiles à ouvrir, parce que c'est beaucoup plus difficile lorsque vous êtes sondé, sans parler du face-à-face, mais même par téléphone, d'avouer par exemple un vote à Rassemblement National, etc. C'est beaucoup plus facile sur Internet. Donc en réalité, on a des panels Internet qui sont relativement fonctionnels, qui marchent assez bien. Il y avait eu un grand débat, notamment en 2007, sur les panels OpinionWay dans le cadre de la présidentielle. Finalement, cette méthode s'est généralisée parce qu'elle s'avère plutôt fiable. Elle a un biais quand même concernant l'abstention, ce qui peut conduire à expliquer au moins partiellement les difficultés des sondeurs à apprécier les résultats des régionales et des municipales. dont le taux d'abstention a étonné tout le monde.
Emmanuel Rivière, on va vous entendre évidemment sur ces points-là. Je voudrais juste les contextualiser. Ce sont deux points essentiels concernant les sondages qui ont été mentionnés. La sous-estimation de l'abstention, c'est une erreur qui est régulièrement reproduite, en tout cas qu'on retrouve à chaque fois entre le décalage entre les sondages et la réalité du scrutin. Et la surestimation du vote Rassemblement National. Je vais citer deux chiffres. Les régionales de 2020, surestimation dans tous les sondages de 4 à 10 points selon les régions. Et la présidentielle de 2017, dans les 7 derniers sondages qui ont suivi le débat de l'entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, Marine Le Pen était surestimée de 4 points en moyenne. Comment expliquer ça?
Et tout ça, c'est assez nouveau. Alors, pour l'abstention, en fait, comme Benjamin Morel l'a dit, la principale explication, c'est qu'effectivement, on va toucher à travers des sondages qui sollicitent les gens pour répondre à des sondages politiques plus facilement des gens qui s'intéressent à la politique que des gens qui en sont très éloignés, qui vont assez rapidement sortir du sondage. Ce qui, en fait, n'était pas tant que ça un problème pour faire des sondages d'intention de vote, parce qu'in fine, ceux qui nous intéressent, ce sont les électeurs.
Sont des électeurs, c'est important, qui souvent, enfin, pas pour tous les sondages, mais pour beaucoup de sondages, en tout cas, comptent aller voter.
C'est aussi
ce qui explique.
Mais c'est ça le problème.
La volatilité et donc la difficulté de prendre en compte l'abstention.
Au moment des régionales. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup trop de gens dans les échantillons qui disaient une intention d'aller voter et qui vraisemblablement ne se sont finalement pas déplacés. Ce qui peut être explicatif d'une partie du décalage et notamment du décalage sur le Rassemblement National, dont la sociologie de l'électorat les rend plus perméables à finalement ce sentiment de dernière minute que ça vaut pas tant que ça le coup, ou qu'on a autre chose à faire, ou qu'on a dit qu'on irait vraiment voter quand même, tout en ne sachant pas très bien quand aurait lieu l'élection. D'ailleurs, évidemment, les sondages ont été un peu victimes de cette abstention massive. Les élections sont les principales victimes de cette abstention massive. Et c'est l'autre aspect qu'il faut regarder, c'est cette campagne tronquée, empêchée par les conséquences notamment de l'épidémie. Donc ça, c'est un point important. Le fait qu'il y ait une surestimation du Rassemblement National, là, pour le coup, c'est franchement nouveau, parce que les sondages des européennes, les sondages de la présidentielle de 2017 ont effectivement, à un moment de la campagne, placé, pour parler de 2017, Marine Le Pen très très haut, pas loin de 30%, Mais en fait, si on suit les courbes des sondages, elle est estimée dans notre tout dernier sondage, elle passe de 24 à 22. Et elle termine à 21. Donc, de ce point de vue-là, je plaide que c'est pas, on ne peut pas parler d'erreur dans ces cas-là. Et on ne peut pas non plus dire un sondage se trompe parce qu'à 6 mois d'une élection, il ne donne pas le résultat de l'élection. On peut dire un sondage se trompe quant à 3 jours d'une élection régionale, ou à même une semaine d'une élection régionale, il donne une photographie qui est très décalée par rapport à ce que sera le résultat final. Effectivement, 10 points d'écart sur le Rassemblement National, c'est très décalé.
Stéphane Hunk, on va entendre Benjamin Morel qui souhaite réagir, mais d'abord vous, Stéphane Hunk, qui êtes secrétaire général de la commission des sondages. Il y a des enseignements à tirer en tant que justement secrétaire général de cette commission des sondages face à ce décalage entre ce qu'annoncent les sondages, alors pas aussi important, nous le dit Emmanuel Rivière selon lui, selon les cas, et la réalité du scrutin.
Ce qui est très important pour nous, c'est de souligner qu'un sondage, c'est une estimation, c'est pas une prédiction. Et d'autant plus quand on est, comme aujourd'hui, à 6 mois de l'élection présidentielle, les résultats qui sortent des sondages, c'est un état de l'opinion publique à l'instant où nous sommes aujourd'hui. Et donc, l'état de l'opinion publique aujourd'hui, il va pouvoir beaucoup bouger d'ici le printemps prochain, jour de l'élection.
À quoi ça sert de sonder l'opinion publique tant de temps en avance, 6 mois en avance, sachant qu'encore une fois, l'un des candidats qui est annoncé au plus haut n'est même pas candidat, Éric Zemmour? Est-ce qu'il ne faudrait pas fixer des règles de départ des sondages qui soient plus révélateurs des candidats qui sont en lice?
Alors ça, c'est très compliqué à mettre en œuvre. En tout cas, ça relèverait probablement du Parlement. Le Parlement, quand la commission des sondages existe depuis 1977, et c'est le moment où le Parlement a pris ce sujet en main pour décider de réguler les sondages. Auparavant, il y avait évidemment des sondages depuis les années 60, des sondages politiques, ils n'étaient pas régulés. Et donc, il y a eu le sentiment qu'il fallait mettre en place des règles et il fallait que les pratiques des sondeurs soient contrôlées. Donc, elles sont contrôlées, comme je vous l'ai dit, au niveau de la fabrication par la commission des sondages. Et puis, il y a toutes les conditions de publication. La règle aujourd'hui, elle est très limitée dans le temps sur la période d'interdiction de publication des sondages. C'est le jour de l'élection et la veille. Donc, c'est un temps extrêmement court. Au moment où la loi a été votée, ce que le législateur avait envisagé en 1977, c'est d'interdire les sondages pendant l'ensemble de la période de la campagne électorale officielle. Donc, ça veut dire pendant environ 3 semaines avant l'élection. Au final, elle a retenu un délai beaucoup plus court. Mais vous voyez, on est vraiment sur la problématique de l'influence que peuvent avoir les sondages au moment où l'électeur fait son vrai choix. Pas au moment où on sonde des gens, comme aujourd'hui, 6 mois avant, mais au moment où il fait son vrai choix. Aujourd'hui, effectivement, le caractère prédictif des sondages à 6 mois de l'élection, il est pratiquement nul. Le caractère informatif des sondages, c'est simplement donner un rapport de force. Il y a des gens qui montent, c'est ce que disait tout à l'heure monsieur Rivière. Il y a des gens qui descendent, et donc c'est plutôt ces tendances-là qui peuvent être intéressantes. Il ne faut pas effectivement en faire ni quelque chose de prédictif, ni quelque chose de décisif pour les électeurs.
Donc c'est peut-être que les médias et les citoyens s'emparent de manière trop importante de ces sondages, le fait qu'on en parle tant que ça. Attendez, il va dire, on va vous entendre, mais il y a Benjamin Morel qui voulait réagir.
Oui, le problème, en effet, ce n'est pas la manière dont sont faits les sondages. En tout cas, ce n'est pas le problème qui est le plus criant, même si, évidemment, les sondeurs peuvent ajuster leur méthode. Le problème, c'est l'usage public et médiatique que l'on va faire du sondage. C'est-à-dire que les mots ont été utilisés tout à l'heure, le sondage n'est pas prédictif, ne serait-ce que parce que vous avez une grosse abstention différentielle. Qu'est-ce qui fait que parfois on a des soucis quant aux prévisions des sondages? C'est parce que, en réalité, on a du mal à prévoir justement cette abstention et que cette abstention, eh bien, en réalité, n'est pas répartie de manière uniforme dans tous les électorats. Vous avez des électorats qu'on sait plus abstentionnistes, électorats populaires notamment, qui peut, pour faire simple, voter plus facilement LFI ou surtout Rassemblement National. Si vous sous-estimez, si vous surestimez l'abstention, vous changez les résultats. Et si vous sondez beaucoup, un temps extrêmement important à l'avance, eh bien, vous avez une partie d'opinion qui est plus ou moins politisée. Et à ce moment-là, eh bien, cette partie d'opinion peut être moins appréciée. Et donc, à partir de là, risque d'entraîner une forme de sous-estimation ou de surestimation de certains candidats. Donc, ça correspond à un état d'opinion à un instant T, mais qui ne sera pas l'état d'opinion campagne faisante au moment de l'élection. Donc l'idée que comme ça il y aurait une forme de projection absolue, c'est en soi problématique quand on présente aujourd'hui les résultats comme étant l'image de la France électorale. En réalité, c'est quelque chose qui est trompeur, mais malgré tout qui va produire des effets. Et c'est là où peut-être le problème de l'usage du sondage est le plus important. C'est-à-dire que le sondage va déclencher des dynamiques de campagne. Le sondage va déclencher des effets de vote utile chez certains électeurs, de ralliement de certains candidats à d'autres candidats, etc. Le sondage va participer à la configuration et à la reconfiguration de l'espace politique et de la vie politique sur des prédictions qui, encore une fois, n'en sont pas.
Et donc il y a une surinterprétation, finalement, parce que vous le dites, effectivement, ça ne veut pas dire grand-chose, finalement, 6 mois à l'avance, c'est une photographie à l'instant T. Alors, sauf que c'est pris pour argent comptant par de nombreux citoyens. La faute à qui? Aux médias qui relayent de manière trop importante ces tendances-là?
Aux médias en partie, alors qui commandent les sondages et qui ensuite les commentent. Et ensuite, ça rentre dans un jeu politique, c'est-à-dire, si vous regardez aujourd'hui ce qui se passe à gauche, l'idée est de savoir qui va être en tête des sondages dans un objectif de désistement et de rapport de force au sein de la gauche. Donc là, vous avez des politiques qui vont devoir se baser sur les sondages. Vous avez également, et c'est pas neutre également, des banques qui vont se financer pour les sondages. Parce que lorsqu'il faut emprunter pour une présidentielle, vous n'êtes remboursé à hauteur de la moitié des frais engagés que si vous passez les 5%. Si vos sondages sont à 6%, 4%, vous allez avoir du mal à emprunter. Si vos sondages sont à 15%, vous aurez beaucoup plus de facilité. Donc vous voyez que dans les dynamiques de campagne, dans le vote utile, les ralliements de candidats, les prêts qui vont vous permettre de faire des meetings, qui vont permettre d'avoir une visibilité, d'engranger plus d'électeurs, dans la médiatisation qui va être la vôtre également. Parce que le CSA va prendre en compte le résultat des sondages pour évaluer quelle va être votre place et d'une certaine façon, eh bien, quelle est la place équitable que doivent vous accorder les médias. Si vous avez plus de visibilité, vous engrangez plus d'électeurs. Donc malgré tout, le sondage va avoir un effet, il va avoir un effet extrêmement important. Et encore une fois, là, ce n'est pas de la faute des sondeurs, c'est vraiment l'usage médiatique, mais également institutionnel, qui va être fait du sondage.
Alors là, vous avez soulevé des points très importants, Benjamin Morel. Emmanuel Rivière, je vous pose la question. Est-ce que la surinterprétation des médias aujourd'hui fait qu'ils sont devenus les arbitres de la vie politique, les arbitres de cette future présidentielle en France?
Les sondages ont un effet majeur. C'est très important d'insister sur ce qu'a dit Benjamin Morel. Un effet d'influence colossal sur le climat de la campagne, sur le regard qu'on porte sur la campagne. Nombre de vos confrères interrogent leurs invités politiques en leur opposant les sondages, en les interrogeant sur leur niveau dans les sondages, en leur objectant que leur stratégie ne marche pas parce que dans les sondages, ils n'ont pas le succès escompté. On a frôlé le moment où un parti comme les Républicains allait confier à un sondage le soin d'arbitrer entre ces différents candidats.
Alors, c'est évoqué, parce qu'effectivement, il y a plusieurs candidats à la candidature du parti les Républicains. Ça, c'est un cas effectivement précis. On évoquait la gauche, Benjamin Morel a évoqué la gauche, et effectivement, le rapprochement à gauche entre les Verts et les socialistes sera peut-être arbitré par les sondages. Mais effectivement, à droite, comment désigner le candidat? Le 4 décembre, les militants ils vont voter pour le candidat qui est le plus haut dans les sondages.
Oui, mais ce sera déjà mieux que d'avoir confié un sondage auprès de 15 000 personnes qui a été réalisé, le soin de discerner entre des traits d'image de candidat et finalement, éventuellement, de faire émerger la personne qui serait la mieux placée. Et le problème, c'est que ce phénomène d'influence est un peu insidieux au sens où quand on interroge les Français et qu'on leur demande s'ils sont influencés par les sondages, ils disent non.
Effectivement.
Mais vraiment, en grande majorité. Oui. Quand on leur demande si...
Il y a eu un sondage du CVPOF qui montrait qu'effectivement, je crois, un tiers, en vue de la présidentielle 2017, oui, un tiers des électeurs disaient être influencés par les sondages. C'est pas révélateur.
C'est absolument pas révélateur. Quand on demande aux gens, est-ce que vous pensez que les autres citoyens sont influencés par les sondages? En général, ils disent oui, là. Pour le coup, ce qui doit nous mettre un peu la puce à l'oreille sur la réalité de l'influence. Mais quand on leur demande de manière un peu indirecte, est-ce que ça compte pour vous de savoir qui est le mieux placé pour représenter votre camp, qui a des chances de se qualifier au second tour, qui a une bonne image dans le pays? Et là, ils nous répondent oui. Et donc, ça, c'est... Et effectivement, il y a un ensemble, sondeurs et sondages, les médias qui les commandent et qui les publient, le commentaire qui se fabrique pour tout. Est effectivement très influent. Cela étant, si on raisonne par l'absurde, on pourrait dire, mais ne faisons pas de sondage. Mais il y a un vrai besoin. Les sondages, ils répondent à un besoin de savoir où on en est. Et donc, si on ne regardait pas les sondages, qu'est-ce qu'on regarderait? Les likes sur les réseaux sociaux, la capacité à mobiliser autour de pétitions, à faire venir des gens dans des meetings. En fait, on mesurerait la capacité de mobilisation militante. Et donc, finalement, avoir un outil qui est assez éprouvé, qui est stable dans le temps, qui est contrôlé, c'est probablement la meilleure réponse. Mais par contre, c'est très important de dire tout ce qu'on a dit. 6 mois avant, ça ne veut rien dire, surtout dans un paysage politique aussi fluide. Ça peut se tromper, et c'est un sondeur qui vous le dit, ça peut se tromper. Ça nous apprend plein de choses sur ce qui se passe, je pourrais y revenir, mais ça doit être regardé avec prudence.
Mais vous qui êtes directeur international pour les études politiques d'un institut de sondage, précisément, Kantar Public, est-ce que vous notez l'influence grandissante des sondages au fur et à mesure des années?
Cette influence grandissante, elle est le pendant de l'affaiblissement des partis politiques comme autorité collective, comme outil de sélection des candidats.
On évoquait la droite, c'est effectivement assez révélateur. Ça...
Et à gauche. Mm-hmm. Et elle est aussi liée au fait que il y a une capacité de production des sondages. On va rentrer, je pense, assez rapidement dans la saison des sondages quotidiens. On appelle les rolling, où chaque jour on renouvelle un échantillon et c'est là où c'est aussi, ça peut être très trompeur parce que du coup on va regarder des micro-variations d'un point en oubliant que les écarts entre le sondage et le vote, ça peut être parfois 3-4 points.
Alors Benjamin Morel, vous voulez réagir, et évidemment en tant que docteur en sciences politiques, je veux vous poser la question, les sondages aussi importants sont-ils aujourd'hui? Ils révèlent l'affaiblissement de la vie politique selon vous? Est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière, on a évoqué les cas de la droite, de la gauche, ça a remplacé les primaires qu'il y avait il y a 5 ans?
Alors ça a surtout, et Emmanuel Rivière l'a très bien dit, en réalité c'est surtout le révélateur de l'affaiblissement des partis. Parce qu'en réalité, outre le fait qu'il y a plus de sondages également, parce qu'on a parlé des panels internet, ça coûte aujourd'hui en partie moins cher aux partis, aux médias et aux candidats, il y a également aujourd'hui un déficit de sélection des partis. Un parti en réalité avait deux rôles historiquement. Premier rôle d'un parti, c'est de produire un logiciel idéologique. Une conception du réel, un rapport logique entre des idées hein, qui permet tout d'un coup d'expliquer le monde et d'avoir une offre politique. Aujourd'hui, ces offres politiques sont faibles. Et donc, à partir de là, il faut pouvoir adapter l'offre politique à une forme de demande politique. On ne va pas tenter d'aller chercher des idées qui sont propres à une idéologie, qui vont chercher, qui chez De Gaulle, qui chez Marx, une forme de solidité. On va essayer de savoir ce que veut l'opinion, ce que veut donc le sonder et pour arriver à adapter son logiciel à ce qui est attendu. Donc là, on a un marché de la demande beaucoup plus que de l'offre qui va utiliser à la fois le sondage comme instrument de réception de la demande et puis également, c'est les sondages de priorité sur les priorités des Français, etc., va tenter de savoir ce que veulent réellement les Français, qu'ils se posent ou non les questions en question. Donc là, il y a un premier élément et le deuxième élément, ça a été évoqué, mais un parti politique avait une deuxième fonction, c'était celui de faire monter un personnel politique et au bout du compte, dans le cas d'une présidentielle, de poser, d'imposer et de construire une candidature. Quand vous avez des partis qui sont des partis attrape-tout historiquement, le PS, LR, UMP, qui sont capables d'assurer cette fonction-là, eh bien, vous n'avez pas réellement besoin de sondage pour filtrer vos candidatures. Vous avez un chef qui s'impose en interne et qui, tout d'un coup, incarne cette famille qui apparaît hégémonique dans son champ politique. Des moments où ces partis non pas disparaissent, mais sont affaiblis, où vous avez du coup une concurrence assez sauvage entre candidats qui n'arrivent pas réellement à s'arbitrer par le jeu d'une structure forte, légitime, qui permet de filtrer les candidatures, le seul filtre possible, c'est celui de la popularité et de la potentialité qu'ont les différents candidats de l'emporter au nom du camp en question. Et c'est là qu'intervient la force du sondage, qui est en réalité une forme d'instrument palliatif, à défaut d'avoir réellement des structures politiques capables, un, d'offrir un logiciel politique structuré, et deux, de filtrer les candidatures.
Stéphane Hunks, secrétaire général de la commission des sondages.
Je pense que c'est là un point important par rapport à la place qu'ont les sondages aujourd'hui dans la pré-campagne. Normalement, le sondage vise à évaluer quelle est l'intention de vote, même si le vote n'a pas lieu véritablement dimanche prochain, l'intention de vote du corps électoral. Aujourd'hui, on est dans une situation où effectivement, dans la sélection des candidats, on a du mal à avoir des processus au sein des partis, ce qui est la façon habituelle de faire les choses. Et donc, on se retrouve avec des sondages où on teste toute une série de personnalités. Alors, il faut se souvenir qu'en 2016, à la même période, un an avant l'élection, on testait bien évidemment François Hollande, on testait Manuel Valls, on testait Alain Juppé. On testait des gens qui, au final, n'ont pas été candidats à l'élection présidentielle. Et donc, c'est là où c'est un élément de la prudence qu'il faut avoir par rapport aux sondages qui sortent aujourd'hui. C'est qu'en réalité, la liste des candidats qui seront effectivement présents au premier tour de la présidentielle, il sera déterminé quelques semaines avant par le Conseil constitutionnel en fonction des gens qui auront eu les parrainages. Et donc, les raisons pour lesquelles les gens sortiront de la course à la présidentielle sont variées, mais l'offre politique n'est pas déterminée. Et je dirais qu'elle n'est pas déterminée non plus, même en prenant en compte les personnes qui sont testées, parce que les personnes aujourd'hui, on les teste essentiellement sur leur personnalité et pas sur leur programme politique, puisque la plupart d'entre eux, pour des raisons de timing, font le choix aujourd'hui de ne pas dévoiler l'ensemble de leur programme politique. Donc on demande aux électeurs potentiels qui sont sondés d'évoquer des préférences électorales par rapport à des personnalités qui n'ont pas présenté de programme électoral. Donc tout ça, c'est ce qui incite à la prudence.
Et Emmanuel Rivière.
Ce qui est important, c'est que tout à l'heure, Stéphane Hunk évoquait la nécessité d'avoir des méthodologies stables dans le temps. C'est très important, effectivement. Mais en même temps, la nature de ce qu'on produit quand on fait des sondages change dans le temps. Un sondage aujourd'hui, ce n'est pas une photographie à l'instant T, parce qu'en fait, sur la photo, la vraie photo, les gens n'ont pas choisi. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils auraient choisi? En tant que sondeur, je serais presque tenté de vous sonder. Est-ce que vous avez décidé pour qui vous allez voter pour la présidentielle? Probablement pas encore. Et puis, à un moment, l'offre se stabilise. Et là, le sondage commence à ressembler à une architecture de choix et on commence à rentrer dans le champ des possibles. Là, aujourd'hui, on voit un peu un état des forces politiques et de leur fluidité. Au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de l'élection, on va être dans ce qui peut arriver. Et puis, très proche de l'élection, là, on venait vraiment un peu plus dans le pronostic. Il faut avoir vraiment conscience de ça. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même
nature. Et on a compris que cette photographie est un peu déformée parce que surexploitée, notamment par les médias et donc par les citoyens. Merci Emmanuel Rivière, directeur international pour les études politiques de l'Institut de sondage Kantar Public. Merci à vous Stéphane Heung, secrétaire général de la Commission des sondages. Et merci à Benjamin Morel, docteur en sciences politiques de l'École normale supérieure Paris-Saclay.
RFI Challenge à Paris.